2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête! » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari, ton enfant, se porte-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais ni eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose, en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Sur eux deux, il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite, Géasi. » L'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit, priant. Seigneur, encore une fois ce matin, nous voulons plonger nos regards dans ta parole, dans ta sainte parole. Cette parole qui est descendue du ciel, Seigneur, qui a été communiquée à des hommes qui l'ont mis par écrit. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle nous est parvenue. Merci parce qu'aujourd'hui, tu peux continuer à nous instruire à travers cette parole. Et Seigneur, ce matin, nous voulons que tu puisses, Seigneur, nous fortifier, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous reprendre s'il y a lieu, que tu puisses vraiment nous convaincre, Seigneur, que tu es encore le Dieu capable de faire des miracles dans la vie de chacun. que tu es capable encore, Seigneur, d'être à nos côtés jour après jour, puisque tu l'as promis. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours, et ça jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ce matin, à travers ce récit, augmente la mesure de notre foi, afin que nous puissions, malgré nos craintes, malgré nos peurs, malgré tout ce qui se passe dans cette société, que nous puissions continuer à témoigner du beau nom de Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, nous avons dans ce passage l'histoire d'une femme vivant avec son mari qui habite le village de Sunem. Elle va recevoir un serviteur de Dieu dans sa demeure et sa vie sera complètement changée. Et un jour, en verset 8, un jour qu'Élisée passe par Sunem, on nous dit qu'il y avait une femme de distinction, c'est-à-dire une femme qui était riche, hein, une femme de distinction. Dans le terme biblique, c'est une femme qui était riche, qui va le presser d'accepter de manger. Et on peut dire ici, à partir de ce qu'on a lu, entre les versets 28, à partir des versets 8 et 37, que cette femme était non seulement riche, mais elle avait vraiment le don d'hospitalité. C'était une femme qui pratiquait l'hospitalité. C'est avec un cœur chaleureux qu'elle l'invite à partager son repas avec son mari. Et le texte est fort ici, il nous dit, puisqu'elle le presse à venir manger. Elle le presse, quoi. Elle met une pression pour qu'il vienne chez elle et non pas ailleurs. Elle pratique vraiment l'hospitalité. Et ce qui est intéressant, elle ne le fait pas dans le but d'obtenir une faveur quelconque de sa part, puisque financièrement, c'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui, en principe, est pauvre, qui n'a pas d'argent. Donc, elle sait que financièrement, il ne lui apportera rien. Mais toutes les fois qu'il passait, nous dit le texte, parce qu'il passait assez régulièrement, et d'après les commentateurs, c'était une route où les prophètes, on appelait ça la route des prophètes, c'est un lieu où les prophètes se rencontraient à un certain endroit, en dehors de Sunem, et c'était une route où les différents prophètes passaient. Mais Élisée, lui, à chaque fois qu'il passait dans Sunem, eh bien, cette femme, elle le pressait de rester, d'habiter dans sa maison, de dormir à la maison, de prendre du repos, et de pouvoir prendre un repas. Et c'est vrai qu'elle n'était pas obligée de pratiquer cette hospitalité, parce que l'hospitalité, ça exige certaines dépenses. Ça exige aussi qu'on brise certaines routines quotidiennes dans nos vies. C'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir quelqu'un à dormir chez eux. Quelqu'un même à donner un repas à quelqu'un à la maison. Ça brise notre train-train quotidien, ça brise notre routine. Et pourtant, le Seigneur nous demande, dans Romains 12, 13, nous demande de pratiquer l'hospitalité. Ce qui est intéressant, car aux surprises, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que quelques-uns, en pratiquant l'hospitalité, ont logé des anges sans le savoir. Alors, le Seigneur nous réserve toutes sortes de choses. Dans le passé, c'est vrai, on peut voir à travers Lot. Lot a reçu des anges dans sa maison, mais sûrement qu'à travers l'histoire de l'Église aussi, des gens, en pratiquant l'hospitalité, ont reçu non seulement des serviteurs de Dieu, mais ont reçu aussi des anges en pratiquant cette hospitalité. Et par le comportement, verset 9 ici, par le comportement manifesté par Élisée, elle savait qui passait toujours chez elle, elle savait que c'était un saint homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre de l'argent, elle va investir de l'argent pour recevoir ce serviteur de Dieu. Elle va faire construire une pièce à part pour lui, pour qu'il puisse s'y recueillir lorsqu'à chaque fois qu'il venait la visiter. Elle sait tout ce qu'il a de besoin. Il n'y a pas besoin d'une télé, il n'y a pas besoin d'un système de son, il n'y a pas besoin d'une voiture. Tout ce qu'il a besoin, c'est un lit, une table, un siège et un chandelier. Un lit pour se reposer, une table pour méditer les Écritures, un chandelier pour l'éclairer le soir et la nuit, s'il veut lire, s'il veut méditer, et un siège pour qu'il puisse s'asseoir. Elle le donne exactement ce qu'un serviteur de Dieu a besoin, le minimum pour nous, mais tout ce dont un serviteur de Dieu a besoin. Malgré son dévouement et sa piété, elle avait un grand chagrin dans sa vie, elle était stérile. Et non seulement elle était stérile, mais on nous dit que son mari était très vieux, donc on présume qu'elle aussi, elle devait être assez vieille, quoi. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on sait qu'en Israël, qu'une femme qui n'avait pas d'enfant, eh bien, elle était méprisée par sa famille et par ses concitoyens. On disait qu'elle était maudite. Il y avait une malédiction qui reposait sur ces femmes-là. Et quand je suis allé faire un séminaire l'an passé en Alsace, au mois de mai, j'ai pu voyager pendant 2 heures et demie avec une juive qui fréquentait une synagogue à Nancy et qui me racontait comment les juives, en fait, dans la synagogue, il y a des femmes qui viennent et qui n'ont pas d'enfants et qui sont quand même, ils sont pas... Elle disait encore que oui, entre guillemets, personne ne le dit, mais pour celles qui fréquentent la synagogue, pour les gens qui fréquentent la synagogue, C'est comme une forme de malédiction qu'elles ont sur elles parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, elle dit, on les stimule à avoir des enfants. Ah, ça m'intéresse. J'ai dit, vous faites comment? Alors, les jeunes mamans qui ont des bébés, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Quand ces femmes-là qui n'ont pas eu d'enfants viennent à la synagogue pour prier ou pour servir, eh bien, les jeunes mamans qui viennent d'avoir un bébé, elles prennent le bébé et elles le mettent dans les mains de celles qui n'ont jamais eu d'enfants. Et elles leur donnent le bébé toute la journée. Alors, elles prennent soin du bébé toute la journée. Et, bon, j'écoutais la suite, hein. Ben, elle me dit, monsieur, vous le croirez ou ne croirez pas, mais le fait de tenir un bébé, de le serrer, de le cajoler, de lui donner à boire, ça stimule l'intérieur de la femme pour qu'elle puisse partir enceinte. Bon, vous pouvez y croire ou pas, mais elle m'a dit que ça marchait, quoi. Donc, c'est une façon pour les Juifs d'aider ces femmes-là, finalement, à diminuer leur peine, mais aussi à stimuler les femmes pour qu'elles puissent partir enceinte. Bon, c'est bien qu'elles partent enceintes toutes seules, mais ça stimule les femmes à avoir des enfants. Et elle m'a dit que ça fonctionnait. Et ici, on a une femme ici qui est trop, non seulement qui est trop vieille, mais qui était stérile, qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Et qu'est-ce que le prophète va lui dire? Verset 16a, il va dire, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Élisée veut la récompenser, et il lui dit, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Est-ce que ça vous fait penser un passage des Écritures? Qui peut me citer le passage ce matin? À la même époque, je reviendrai l'année prochaine et Sarah aura un fils. Genèse chapitre 18, rapidement. Vous rappelez-vous ce que l'ange de l'Éternel a dit à Abraham? Genèse chapitre 18. C'est sensiblement les mêmes paroles qu'Élisée va dire à Abraham. À la Tsunamite. Et ici, c'est sensiblement les mêmes paroles, en fait, qui avaient été prononcées par l'ange qui va parler avec Abraham. Les versets 10 à 14. Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Un petit peu plus loin, dit Abraham, et Sarah était vieux, avancée en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants, comme cette dame, comme cette tsunamite. Elle rit en elle-même. L'Éternel dit à Abraham, un peu plus loin, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Mais là, j'aime bien cette phrase, je l'aime bien dans le français courant. Le français courant dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour l'Éternel, de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Quelle fut la réaction de la Tsunamite ici dans Deux Rois? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. En d'autres mots, écoute, raconte-moi pas des bobards, raconte-moi pas des mensonges. Premièrement, je sais que je suis stérile. Et deuxièmement, écoute, regarde mon âge, et il n'y a pas de femmes de mon âge qui peuvent avoir des enfants. Ne me trompe pas, hein? C'est ce qu'elle dit, hein, au verset ici, verset 16b, hein. Ne me trompe pas. En d'autres mots, c'est impossible. Toi qui es un prophète de Dieu, ne me dis pas, ne me raconte pas un mensonge. Frères et sœurs, on pourrait prendre le même passage de Genèse 18. Et dire à cette tsunami de ce matin, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Frères et sœurs, est-ce que vous croyez encore ce matin que Dieu veut nous étonner? Que Dieu veut encore accomplir des prodiges parmi son peuple? Que Dieu veut encore accomplir des miracles, des guérisons au milieu de son peuple ce matin? Ouais. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et frères et sœurs, ça c'est une question de foi, uniquement une question de foi. Il est possible ce matin que vous viviez une situation qui vous semble désespérée, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus espérer quoi que ce soit, et pourtant Dieu vous dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Dieu se plaît intervenir dans nos vies lorsque la situation semble désespérée, lorsque la situation semble sans espoir. Dites amen à ça ce matin. Oui. Voici une femme qui voudrait croire, mais qui ne l'ose pas. Combien de tsunamites y a-t-il parmi nous ce matin, frères et sœurs? Vous voudriez donner votre vie à Jésus, mais vous n'osez pas, de peur de ce que les autres pourraient dire, ou parce que vous craignez de ne pas tenir le coup. Vous avez espéré être guéri, délivré, ou encore voir la conversion d'un parent, ou Dieu exaucer vos prières, ou répondre à un besoin, et vous êtes toujours resté déçu. Vous voudriez vraiment croire tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est prêché, et vous n'osez plus. Vous n'osez plus demander que l'on prie pour vous de peur que vous soyez à nouveau déçus et que cela ne marche pas pour vous. Alors vous réagissez exactement comme la Tsunamite. Seigneur, ne trompe pas ta servante. Seigneur, ne trompe pas ton enfant. Seigneur, c'est dans la parole, mais pour moi, c'est un mensonge puisque ça ne se réalisera pas dans ma vie. C'est ce que la Tsunamite est en train de dire ici à Élisée. Hein? Sa grande déception l'avait rendue sceptique. C'était pas possible pour elle. Elle ne pouvait pas. Il y a beaucoup de Tsunamites, frères et sœurs, parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils connaissent les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, mais ils pensent qu'ils ne sont pas valables pour eux. Frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse à Abraham, cette promesse, elle ne s'arrête pas à l'époque d'Abraham ou au décès d'Abraham, elle se poursuit tout au long des Écritures. Dieu donne pas des promesses, il les retire. Dieu donne pas des promesses, il les retire pour un tel et un tel. Les promesses de Dieu, elles sont valables pour toutes les époques. Dites amen à ça ce matin. Combien de gens croient dans le pardon, la guérison, la délivrance, la victoire, mais ils pensent que ce n'est pas pour eux. Ils pensent qu'ils peuvent être pardonnés, guéris, délivrés, mais ils n'y croient plus, vraiment. Au début, ils y croyaient, mais parce qu'ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils voulaient ou espéraient, eh bien, ils ont perdu espoir. Et pourtant, nos doutes, frères et sœurs, ça, c'est un beau mot. Je vais faire une cravate ici. Là. Nos doutes n'anéantissent jamais les promesses de Dieu. C'est peut-être pas dur pour vous dire le mot anéantir, mais pour un Québécois, c'est pas possible. Nos doutes n'anéantissent jamais les promesses de Dieu. Malgré son doute, frères et sœurs, cette Tsunamite est tout de même devenue enceinte et elle a eu un fils. Malgré son doute. Frères et sœurs, vous pensez que c'est un cas unique? Pensez à Gédéon. Gédéon qui a peur, un peu heureux, qui se cache derrière une machine qui est en train de moudre le grain. Et le ange de l'Éternel vient le voir. Qu'est-ce qu'il lui dit? Salut, vaillant héros. T'es appelé par le Seigneur. T'es un vaillant héros. Tu vas devenir un vaillant héros parce que Dieu va faire des miracles à travers toi. Toi, t'es rien. Et Dieu va faire des miracles à travers toi. Ouais. Salut, vaillant héros. Hey, c'est une claque, là. Il tremblait, il était caché, quoi. Il dit, Seigneur, tu m'appelles? OK, mais écoute, j'ai quand même une coupe de tests à te faire pour voir si c'est vrai. La toison et d'autres choses. Et pourtant, Dieu, dans sa patience, je t'ai appelé. Je vais t'équiper. 30 000 soldats pour commencer. Ouais. 30 000 soldats pour vaincre un ennemi. Gédéon, Seigneur, c'est bien trop. Bien trop. Allez, ils sont descendus à 300. Et le Seigneur, j'avais voulu tout seul avec Gédéon. Il aurait pu faire des ravages au complet. Hein? Ouais. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer à travers ça, à travers Gédéon, dans la vie de Gédéon? Écoute, tu peux rien faire sans moi. Si tu comptes sur moi, tu vas voir des miracles, des prodiges s'accomplir. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. La première prière des chrétiens dans Actes chapitre 4. Seigneur, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec assurance. Étends ta main pour que des guérisons, des miracles, des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ça, c'est une prière qu'on devrait apprendre par cœur et qu'on devrait faire nôtre. Dieu veut encore accomplir des miracles aujourd'hui. Dieu veut encore accomplir des guérisons aujourd'hui. Dieu va encore accomplir des prodiges aujourd'hui dans la vie des gens. Notre problème, vous savez quoi? C'est qu'on a l'aide sociale, on a le chômage, on a tout, malgré la crise économique. Et avant de faire appel à Dieu, qui accomplisse des miracles, des guérisons, des prodiges, on s'appuie sur notre gouvernement providence. Et Dieu ne fait rien, quoi. Et je suis persuadé que Dieu les bras croisés et que Dieu attend qu'on l'appelle pour intervenir dans nos vies, accomplir des choses extraordinaires, comme au temps de la Tsunamite, comme au temps de Gédéon, comme au temps de Josué, comme au temps d'Abraham, comme au temps de tous ces héros de la foi qui nous ont précédés dans les Écritures. La parole de Dieu reste valable et efficace même si nous n'y croyons pas. Les promesses de Dieu ne sont pas oui et amen en nous, mais en Jésus. Le doute nous empêche d'accepter les promesses de Dieu, mais nos doutes n'empêchent pas Dieu d'accomplir ses promesses. Amen. Oui. Nos doutes n'empêche pas Dieu d'accomplir ses promesses. On ne paralyse pas la main de Dieu parce qu'on doute qu'il peut accomplir des choses encore aujourd'hui. Dieu tient toujours sa parole, il tient toujours ses promesses. Josué 21:45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Parfois, nous pensons que Dieu n'est pas avec nous. et que nous ne le verrons pas s'accomplir ses promesses, frères et sœurs. Mais la présence de Dieu ne dépend pas de nos sentiments. La puissance de Dieu ne travaille pas à travers nos sentiments, elle travaille à travers sa parole. Il n'y a aucun sentiment humain qui va faire bouger le cœur de Dieu. On lit sa parole, il y a une promesse. Seigneur, cette promesse-là, eh bien, j'aimerais qu'elle s'applique dans ma vie, Seigneur. Et par la foi, je vais de l'avant. Il y a un passage, hein, Jésus dit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs, mais qu'il exauce la prière de celui qui fait sa volonté. » Des fois, on se pose des questions, pourquoi on n'a pas de réponse à nos prières? Dieu nous donne une raison. Dieu veut répondre à nos prières, mais avant de les prier, il veut qu'on garde nos cœurs aussi. Il n'y a pas rien qui fasse obstacle entre la réponse, entre la question ou la prière, la requête qu'on lui envoie, et la réponse qui tarde parce qu'on a prié, et que peut-être quelque chose n'est pas correct dans nos vies. La puissance de Dieu ne travaille pas par nos sentiments, mais par sa parole. Par exemple, lorsqu'il dit, Ésaïe 41:10, tournez avec moi dans Ésaïe 41:10. Il me dit que je vais trop vite, alors je vais attendre, de plus entendre de page tourner. Isaïe, c'est dans l'Ancien Testament. J'aime bien taquiner les gens. 41:10, qu'est-ce qu'il est écrit? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Est-ce que vous pensez que c'est juste à l'époque d'Isaïe? Non, hein? Aujourd'hui, Dieu est encore avec nous. Ne crains rien car je suis avec toi. C'est une parole qui s'applique à son peuple aujourd'hui. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est encore valable pour aujourd'hui? Oui, c'est une promesse. Ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets parce que je suis ton Dieu. Je te fortifie. Est-ce que vous croyez que c'est encore valable pour aujourd'hui? Ah oui? Paul le répète. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il vient confirmer que cette promesse-là, elle est valable. Cette promesse de l'Ancien Testament, elle est valable dans le Nouveau puisqu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Frères et sœurs, nous devons croire qu'il agira. Ce passage, vous le lisez, vous vous dites, il s'applique, c'est vrai que c'est encore valable pour aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il s'applique à ma vie. Par la foi, je voudrais, Seigneur, je te demande que cette promesse, elle devienne une réalité dans ma vie. Par la foi. Par la foi. Le juste vivra par et pour la foi. Romains 1, 16, 17. Par et pour la foi. Il vit par la foi de ce qu'il reçoit de la parole de Dieu, et en fonction de ça, il vit pour ce qu'il a reçu de la parole de Dieu. C'est pas il lit la parole, il fait tout le contraire après. Le juste vivra par, et là, Paul rajoute pour la foi. Par et pour la foi. Et ici, quand nous passons par la souffrance, que nous sommes appelés au service de Dieu, nous cherchons souvent à faire provision de force. Puis, nous nous apercevons que cette force sur laquelle nous comptions, elle est limitée et insuffisante pour nos besoins. Gardons-nous, frères et sœurs, de nous laisser abattre, car voici une promesse qui nous assure tout ce qui nous est nécessaire. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Ouais. Est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui que Dieu est avec nous? Ben oui, Matthieu 28:20. Sachez-le, dit Jésus, car voici dans d'autres versions. Je serai avec vous tous les jours et ça jusqu'à la fin du monde. Ouais. Et un autre passage, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais. La force de Dieu est toute puissance et il peut nous la communiquer, il l'a promis. Il va être la nourriture de notre âme et la santé de nos corps. Il est impossible de dire quelle énergie Dieu peut mettre dans un homme, mais quand Dieu nous remplit de sa puissance, la faiblesse humaine n'est plus un obstacle, frères et sœurs. Rappelez-vous des périodes de travail et d'épreuves particulières pendant lesquelles vous avez reçu une force spéciale dont vous vous étonniez vous-même. Et là, vous sortez de cette épreuve, vous sortez de ce problème et vous dites, « Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à travers. » Bien, Dieu était avec toi. Dieu était là pour te soutenir. Tu ne l'as pas vu, mais il était là. Si tu le résentes devant toi, c'est plus marcher par la foi, ça. Il est là. T'es son enfant, il est là, il t'accompagne. Que dit-il au verset 14? Et c'est du même chapitre. Moi, j'aime bien ce qu'il écrit là. Il fait une autre promesse. Ne crains rien, vermisseau. Vermisseau. Qu'est-ce que c'est un vermisseau? Tu n'es pas gêné? Pardon? Un verre de farine? Il faut plus petit qu'un verre de terre. Ouais. Ouais. Ne crains rien, vermisseau. C'est pas pour nous diminuer que le Seigneur nous appelle vermisseau à travers le prophète. Tu n'es rien comparé dans l'univers à tout ce que je tiens. Tu es une poussière. Et qu'est-ce qu'il dit? Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Les frères et sœurs, pour que le Seigneur vienne à notre secours, il faut crier à l'aide, quoi. Il faut crier à l'aide. Quelqu'un qui est en train de se noyer dans un lac, même s'il gigote, qu'il bouge, s'il ne crie pas à l'aide à un moment donné, ou s'il ne démontre pas qu'il y a des gros problèmes, il va se noyer. Ben, les gens peuvent continuer à s'amuser sur le bord de la plage, puis il va descendre à pic, quoi. Il dit, je viens à ton secours. Frères et sœurs, si la promesse du verset 10 nous garantit que Dieu nous donnera la force nécessaire pour accomplir notre tâche, la promesse du verset 14 nous garantit son aide quand nous ne pouvons pas agir seuls. Le Seigneur dit, je t'aiderai. La force intérieure, elle est complétée par le secours extérieur de la main de Dieu. Dieu peut, s'il le juge à propos, frères et sœurs, nous fournir l'aide dont nous avons besoin pour les luttes que nous avons à soutenir au quotidien. Vous savez les luttes que vous devez soutenir au quotidien dans vos maisons. Vous savez les luttes que vous devez soutenir au quotidien dans votre milieu de travail. Vous savez les luttes spirituelles que vous avez à livrer jour après jour dans vos vies. Et le Seigneur, il dit, écoute, je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je vais te donner la référence, bien sûr, je ne me trompe pas. Eh bien, ce sera la semaine prochaine. On va continuer. Frères et sœurs, le Seigneur est autant efficace que sage, et son secours sera approprié aux circonstances de celui auquel il s'adresse. C'est même plus qu'un simple secours, car le Seigneur nous dit qu'il se charge lui-même de notre fardeau tout entier et subvient complètement à nos besoins. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous pour nous aider, pour nous conduire dans les combats. La promesse de Dieu par la bouche de son prophète fut accomplie. Dieu accomplit toujours ses promesses et il est capable, on l'a vu la semaine passée, de faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et moi, je trouve que ça, c'est une récompense que Dieu nous donne parce qu'on intercède auprès de lui, parce qu'on prend rendez-vous auprès de lui à chaque jour pour le prier, pour intercéder. Ça, c'est une promesse. Je trouve que c'est une récompense que Dieu nous fait. On demande des choses à Dieu et Dieu nous donne au-delà de ce qu'on lui demande. C'est pas extraordinaire, ça? Pas merveilleux, ça? Regardez la prière d'Abraham. Hein, si tu vois 50 justes, vas-tu épargner la ville? Oui, 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 oui. 45, 40, 30, 20, 10. Pourtant, Dieu n'a pas trouvé 10. Moins que 10. Mais les seuls justes, il nous a fait sortir. Et au chapitre 19 de Genèse, on nous dit que quand Dieu détruisit Sodome et Gomorre, il pensa à Abraham, et c'est pourquoi il fit sortir Lot et sa famille. Qu'est-ce qu'il a pensé à Abraham? Il a pensé à la prière qu'Abraham lui avait faite à Genèse, chapitre 18. Et je suis persuadé, je l'ai déjà dit ici, mais pour les nouveaux, je suis persuadé, Abraham s'est arrêté à 10, je suis persuadé que si Abraham était descendu à un juste, Dieu aurait dit oui, Abraham, je vais épargner la ville pour un seul juste que je trouverai. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les bénédictions, les récompenses, tout ce qu'on manque parce qu'on ne prend pas le temps d'intercéder auprès du trône de la grâce de Dieu. Cette femme, elle devint enceinte, verset 17, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Quel bonheur pour cette Tsunamite lorsque son fils est né. Quelle joie de voir son enfant unique. grandir, un enfant du miracle. Nous sommes maintenant quelques années plus tard, et l'enfant grandit, nous dit le texte. L'enfant grandit, et un jour qu'il va aller trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Mon père, ma tête. » Et le père dit à son serviteur, « Va vite, va le porter à sa mère. » Et le serviteur l'emporte et l'amène à sa mère. Et l'enfant reste sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et le texte nous dit, en les versets 18 à 20, « Eh bien, il mourut. » Ce n'est pas évident pour une mère de prendre son fils qui hurle de douleur parce qu'il a mal à la tête. Peut-être un garçon de 10, 12 ans. Hein, on dit que c'est un enfant, donc il a moins de 12 ans. Et là, elle ne peut rien faire. Elle n'a pas d'hôpital, pas de système de soins de santé. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met sur ses genoux. Et impuissante, tout ce qu'elle peut voir, c'est son fils agonisé. Mourir dans ses bras, mourir sur ses genoux. Et à partir de ce que nous connaissons de la tsunamite, eh bien, nous pouvons imaginer la grande déception qu'elle devait vivre. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu, dans sa bonté, lui permet d'avoir dans sa vieillesse un enfant. Et là, quelle désillusion pour cette femme, frères et sœurs. Dieu avait fait un miracle, mais j'en aurai jamais un deuxième, quoi. Mais quelle tristesse, quelle désillusion. Qu'est-ce qu'elle pouvait se dire, cette femme? Ah, je ne savais pas. Je ne savais pourquoi est-ce que Dieu me punit ainsi? Il me permet de réaliser mon rêve en me donnant un enfant quelques années plus tard, alors que ce n'est qu'un jeune garçon, il me l'enlève. Mon rêve, finalement, ne s'avère qu'un mirage. Et pourtant, j'avais imploré le prophète, verset 16. « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Quelle déception pour cette femme! Quelle déception! Mais chose étrange, elle ne réagira pas ainsi. Au lieu d'écouter le diable et d'accepter ce qui vient de lui arriver, elle se dit en elle-même, « Tout est possible à celui qui croit. » Amen! Tout est possible à celui qui croit. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Quel changement d'attitude, au lieu de l'entendre dire, « Je ne pourrais pas avoir d'enfant, je ne pourrais pas en avoir. » Elle se dit maintenant, « Je ne peux pas perdre mon enfant. Je ne peux pas perdre mon enfant. » Elle monte le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, elle ferme la porte sur lui et elle sort. Et là, qu'est-ce qu'elle demande? Versets 21, 24 et 25. Vous pouvez jeter un regard, on va les lire ensemble. Elle fit sceller la nièce et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, qui se trouve à environ 40 kilomètres, frères et sœurs, à dos d'âne. Elle va faire 40 kilomètres à dos d'âne pour aller rencontrer le prophète Élisée. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'aller rencontrer le prophète. Frères et sœurs, la vraie foi ne change pas lorsque les circonstances changent, parce que la vraie foi ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de la parole de Dieu. Amen. Ouais. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de crier, qui ont la foi qui sauve, qui ont une grande foi jusqu'au jour où ils arrivent. Paf, il arrive une épreuve dans nos vies. Tout s'écroule, quoi. Là, Dieu n'existe plus. La parole, ça ne veut plus rien dire. Ils ne se souviennent plus d'aucun verset. Ils ne se souviennent plus des prodiges que Dieu a fait dans le passé, dans leur vie. Là, Dieu ne peut plus rien faire. C'est comme s'ils avaient un Dieu qui était mort pour eux, quoi. Mais frères et sœurs, celui qui a la vraie foi, lorsque les circonstances changent, eh bien, pardon, il sait que la vraie foi ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle dépend de la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as fait des promesses. Et cette tsunamite, elle pouvait s'appuyer sur des promesses que Dieu lui avait faites. Si Dieu a dit oui, ou promis quelque chose dans sa parole, cela signifie que c'est la vérité, et cela signifie que là, cela va se passer comme il l'a dit. Amen. Comme il l'a dit. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Malgré les circonstances, et malgré ce que d'autres peuvent en dire, et malgré ce que d'autres peuvent en penser, ce que Dieu dit, eh bien, il l'a promis, et ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Les circonstances lui donnaient raison de croire que ce qu'elle avait craint était quand même arrivé, c'est-à-dire que Dieu et son prophète l'avaient trompé. Mais elle a décidé, la tsunamite, d'agir selon la promesse de Dieu plutôt que de croire aux circonstances. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refuser d'accepter la mort de son fils. Elle ne dit rien à personne, même pas à son mari. Elle met le corps du garçon sur le lit du prophète, ferme la porte, et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part pour Carmel. L'homme de Dieu, verset 27, « L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à son serviteur qui voulait la renvoyer, « Laisse-la là, car son âme est dans l'amertume. » C'est-à-dire, son cœur est rempli de tristesse. « Et l'Éternel me l'a caché, ne me l'a point fait connaître. » Frères et sœurs, il y a certains chrétiens qui enseignent qu'on ne doit jamais être triste, mais la foi n'exclut pas la tristesse. Vivre sous la bénédiction de Dieu, recevoir les promesses de Dieu, ne garantit jamais qu'on n'aura jamais de contretemps. Vous êtes amen à ça? Genèse 42, rapidement. Est-ce qu'on l'a lu la semaine passée, Genèse 42? Genèse 42, c'est un passage où les frères de Joseph, ils sont démasqués. Les frères de Joseph, vous vous souvenez, ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans un puits. D'abord, ils ont voulu l'assassiner, ils ont changé d'idée, ils ont dit « c'est plus payant de le vendre que de le tuer. Au moins, on va avoir de l'argent pour le vendre. » Ils l'ont mis dans une citerne creuse, nous dit le texte, une citerne qui était à sec. Ils l'ont déposé là, puis quand il y a eu des Madianites qui sont passés, une caravane de Madianites qui est passée, ils l'ont sorti, puis ils l'ont vendu. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué un animal, ils ont baigné sa tunique dans le sang, et là, ils ont fait croire à son père qu'il avait été dévoré par un animal. Et là, regardez vers chapitre 42. Là, ils sont coincés, ils sont avec Joseph. Ils savent pas que Joseph, c'est leur frère. Ils savent pas que Joseph comprend l'hébreu. Et là, ils parlent entre eux. Verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère quand nous avons vu l'angoisse de son âme. » Frère, c'est ça, Joseph, c'est injuste. Joseph, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Joseph, c'est quelqu'un à qui on n'a rien à reprocher. Et pourtant, je suis convaincu que dans le fond de la citerne, Joseph n'avait pas les bras levés au ciel, puis il ne devait pas chanter des cantiques de louange, d'adoration. Le texte nous dit, on a vu son angoisse. On n'a pas juste entendu son angoisse, on a vu son angoisse. On a lu sur son visage que notre frère est en train de vivre, quoi. Quand il nous demandait grâce, « Hey, Joseph, t'es donc bien incrédule, t'as demandé grâce à tes frères. » Hein? T'as demandé grâce à tes frères, Joseph? C'est pas digne d'un croyant, ça? Un héros de la foi, Joseph, hein? Ouais. Alors qu'on vient de pas enseigner qu'un chrétien ne peut pas être triste, quoi. Qu'un chrétien ne peut pas être pris d'angoisse, quoi. La seule chose, c'est que quand il est triste ou quand il est pris d'angoisse, il n'effacera jamais la foi qu'il a pour son Seigneur. Jamais. Jamais. La tsunamite ne comprenait pas ce qui lui arrivait et ni pourquoi Dieu permettait ce qu'elle était en train de vivre. Son âme était en deuil, nous dit le texte, mais elle n'avait pas perdu la foi et c'est pour cette raison qu'elle est venue voir Élisée avec son besoin. Elle se disait que la mort du jeune garçon n'était pas logique, spirituellement parlant. Elle n'avait pas demandé un fils et dans sa grâce, Dieu lui en avait accordé un. C'était un enfant de la promesse. Voilà pourquoi elle avait compris que ce malheur qui la frappait ne pouvait pas venir du Seigneur. Qui le lui avait alors enlevé? Elle ne critique pas Dieu, elle ne critique pas le prophète. Le texte ne nous dit pas nulle part qu'elle critique Dieu ni le prophète. Elle se limite simplement à rappeler au verset 28 au prophète. Elle se limite simplement à rappeler au prophète Élisée, pardon, ce qu'elle lui avait dit dans le passé. « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Frères et sœurs, combien il est important d'avoir du discernement spirituel comme cette tsunamite. Elle voyait plus loin que les circonstances. Elle se rendait compte que ce qui lui arrivait était l'œuvre du diable et elle n'allait pas donner la victoire à Satan. Frères et sœurs, n'est-ce pas une belle leçon pour nous ce matin? Vous en voulez une autre belle leçon? David, j'en ai parlé la semaine passée? Non? C'est vrai qu'on n'était pas beaucoup la semaine passée avec la tempête de neige. Hein? David! Une armée d'Israël. Écoutez, les Israélites, c'était une armée d'hommes aguerris. Il y avait des soldats de métier. C'est ta chose que je l'ai déjà dit? Merci. Dans 3 mois. Vous allez avoir oublié, je la répéterai dans 3 mois. Ça va. Elle vit une grande déception, mais cela ne l'empêche pas de faire une démarche auprès du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur peut permettre un échec ou un contretemps afin d'éprouver notre foi. Dans ce cas-là, nous ne devons pas résister, mais demander à Dieu la grâce et la puissance pour persévérer. Et quand nous nous rendons compte que le Seigneur n'a rien à voir avec l'épreuve que nous traversons, mais qu'au contraire, nous avons affaire avec le diable, alors ne l'acceptons pas. Et si nous ne nous sentons pas suffisamment forts pour lutter tout seul, alors demandons l'aide à quelqu'un comme la tsunami. La mort d'un enfant ne pouvait pas être de Dieu, car l'enfant avait été conçu selon la promesse. Et nous savons que Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Dieu n'est pas comme les hommes pour changer d'avis. Si vous avez reçu une promesse de la part du Seigneur, ne laissez pas le diable vous la voler. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Quand je dis que quand vous avez reçu une promesse de la part du Seigneur, ne laissez pas le diable vous la voler, cette promesse, elle doit être dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont des visions, il y a des gens qui entendent des voix, mais vous n'êtes pas capable de faire en sorte que ça coïncide avec un verset biblique. Comment peut-on savoir que c'est le diable qui se déguise pas en ange lumière pour nous séduire, qui vient nous rentrer quelque chose dans notre esprit, et que c'est Dieu? C'est en méditant les Écritures. j'ai rencontré un jeune couple et le garçon me dit « Ah, le Seigneur m'a parlé. » « Ah oui, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? » Il m'a dit que c'était la femme qui me réservait, celle-là. Ça, c'est la femme qui me réservait depuis toute éternité. « Ah oui, t'es chrétien, toi, on me dit, oui, t'es sauvé, t'es sûr? » »« Oui, 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 oui. » »« Ben écoute, t'es avec une fille qui n'est pas croyante, quoi. » Alors, c'est pas la voix de Dieu que t'as entendu, quoi. C'est la voix de ton cœur, c'est la voix de tes sentiments, et là, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. On est très tolérant aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, hein, concernant les mariages, les médecins. Très tolérant. Vous lirez le livre d'Esdras. Les Juifs qui étaient mariés avec des païennes, même s'ils avaient 4-5 enfants, Dieu a dit, la païenne et les enfants, en dehors de mon peuple, c'est tous des impurs. Tu me sors ça de là. Ouais. Et aujourd'hui, Dieu, c'est... Les gens qui entendent des voix, malheureusement, ce n'est pas nécessairement la voix de Dieu qu'ils entendent. Ils vivent dans le péché en pensant qu'ils font la volonté de Dieu. Alors, quand on entend, on dit, « J'ai senti que Dieu m'a parlé », ben, il faut que ça sent fort, la parole, quoi. Il faut que ça soit inclus dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons de prophétie, hein, ça a la grande mode aujourd'hui. Et qui vont chercher n'importe quel bobard qui n'est même pas compris dans la parole, quoi. Comment on peut vérifier si ça vient de Dieu? Comment l'Église peut être dirigée par quelqu'un qui entend des voix, qui vient confirmer, qui vient dire, écoute, c'est Dieu qui m'a parlé, alors qu'il n'était pas capable de trouver, ni soutenir ce qu'il a entendu, qui n'est pas capable de soutenir à travers un verset, un seul verset dans toutes ses Écritures. Il n'est pas capable de soutenir par un seul verset, quoi. L'Église ne peut pas être dirigée par des gens comme ça. Alors, c'est important pour nous, non pas de fonctionner par nos sentiments, mais de plonger nos regards dans la parole. Les sentiments, c'est le cœur, quoi. Et le cœur, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. La parole, c'est une épée à double tranchant. Avec Dieu, c'est pas gris, c'est noir ou c'est blanc. C'est nous qui mettons les zones grises, mais avec Dieu, c'est pas noir, c'est noir ou c'est gris, c'est blanc. La mère de l'enfant, verset 30 et 31. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit, verset 30. Et elle eut raison d'agir ainsi sur l'ordre d'Élisée. Géasi les avait devancés. Hein, si vous lisez un petit peu avant, Élisée avait envoyé Géasi aller mettre le bâton sur l'enfant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a mis le bâton sur le visage de l'enfant et le texte nous dit qu'il y a une voix et qu'il y a une signe d'attention. Il s'en retourna. Eh bien, quand il a vu que le bâton n'avait pas fait son effet, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en retourné, verset 31. Il est allé voir Élisée et il lui a rapporté la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et là, verset suivant, 33-37. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche, ainsi de suite. Vous pensez que c'est le rituel d'Élisée qui a fait amener, qui a ramené l'enfant de la mort à la vie? Il y a un petit mot qui nous échappe dans ce passage-là, hein? Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria. Ce que Géasi, son serviteur, n'avait pas fait. Géasi pensait que la guérison se trouvait dans le bâton. Il n'a pas prié. Lui, il a pris un temps pour prier. Pourquoi? Seigneur, c'est-tu avec ton bâton que tu veux le ressusciter ou si par autre chose? Et Dieu, dans la prière, va lui révéler, quoi. Place tes yeux contre ses yeux, place tes mains contre ses mains, place ta bouche sur sa bouche. Place ton corps sur son corps. Et par la foi, Élisée, c'est ce qu'il fait. Il a prié le Seigneur, il a eu sa réponse, et il va avoir un miracle qui va se produire. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, elle déborde d'un ministère. Le ministère le plus pauvre spirituellement, c'est le ministère de la prière. On manque de temps pour prier parce qu'on est trop occupé à faire autre chose. Mais c'est dans la prière qu'on voit Dieu agir au milieu de son peuple. Est-ce que vous dites « Amen » à ça? Vous avez des enfants qui sont pas encore au Seigneur? Si vous priez pas pour vos enfants, si vous vous fiez sur les autres pour qu'ils puissent se convertir, ben vous passez à côté, quoi. C'est d'abord vous qui devez prier. Il y a des réunions de prière, vous devez venir aux réunions de prière. Non, devoir, c'est légaliste. Je dirais pas devoir. Dieu vous appelle fortement à assister aux réunions de prière. Il y a des gens qui m'appellent, ils ont besoin de prière uniquement quand ça ne va plus du tout dans leur vie, quoi. Les seuls contacts que j'ai avec certaines personnes de l'Église, c'est quand ça va mal dans leur vie, quoi. Quand ça va bien, le pasteur n'existe pas. Alors je me pose la question, quand ça va bien, si Dieu existe aussi dans nos vies. Ah, c'est ça, la prière, c'est le ministère le plus pauvre dans l'Église de Jésus-Christ. On va commencer une semaine d'évangélisation, un effort d'évangélisation auprès des musulmans. On va planifier des belles choses. Et si ce n'est pas soutenu d'abord par la prière, il n'y a rien qui va se produire. Rien, rien, rien. Vous pouvez en être certain. Vous pouvez en être certain. Parce que dans la prière, Dieu va d'abord disposer les cœurs des gens à l'extérieur. Dans la prière aussi, Dieu va disposer notre cœur pour savoir comment les approcher. Et dans la prière, Dieu va nous dire, écoute, appuie-toi sur moi. C'est en toi, c'est moi qui va t'aider. C'est moi qui va agir. Comme j'agissais dans l'Ancien Testament, c'est moi qui va agir. Et ça, tout ça, frères et sœurs, c'est une question de foi. Question de foi. Regardez ce qui se passe. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Frères et sœurs, êtes-vous comme la tsunamite dans la première partie de cette histoire? Vous voudriez croire, mais vous n'osez pas. Mais ce matin, vous pouvez dire, « Seigneur, pardon pour mon incrédulité. Augmente la mesure de ma foi. » Seigneur, cette tsunamite, c'est une femme riche. Cette tsunamite, il n'y a rien qui nous dit qu'elle pratiquait les sacrifices avec son mari. Elle pratiquait l'hospitalité. Et pourtant, Seigneur, tu as fait des prodiges dans sa vie. Tu as accompli 2 miracles incroyables, tu as donné la vie alors qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et tu as ressuscité son fils qui était mort. Frères et sœurs, à combien plus forte raison Dieu réserve des miracles encore plus grands pour ses enfants. Amen. Ce matin, si vous voudriez recevoir quelque chose de Dieu, mais vous hésitez à venir à lui, ne craignez pas, car il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Tu ne connais pas encore Christ ce matin, alors ne crains pas, car Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même comme rançon pour les libérer tous. Frères et sœurs, notre prière ce matin, ça devrait, Seigneur, augmente la mesure de notre foi. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, le discernement nécessaire pour qu'on puisse mettre du temps à part pour intercéder. Intercéder. Et Paul, il nous donne une belle gifle concernant la prière dans une des épîtres. Il dit, nous prions, il parle à une église, il dit, nous prions pour vous parce que nous vous aimons. Et souvent, frères et sœurs, un manque de vie de prière, ça dénote un manque d'amour envers nos frères et sœurs en Christ. Quand on aime quelqu'un, on l'a constamment ici, constamment là. On n'est pas capable de chasser de nos pensées. Frères et sœurs, si on aime vraiment Dieu et Jésus-Christ, comme on doit l'aimer, il devrait être les deux omniprésents dans notre esprit. Si on aimait nos frères et sœurs en Christ, comme on est censé les aimer, il devrait être omniprésent dans nos pensées, il devrait être omniprésent dans nos prières, il devrait être des sujets de prière au quotidien. Pas juste quand ça va mal, pas juste quand il y a quelqu'un qui est malade, mais au quotidien. Prier. Ça va bien dans leur vie, mais priez pour pas qu'ils tombent. Priez pour qu'ils continuent à persévérer. Priez pour pas qu'ils abandonnent. Priez pour qu'ils gardent courage. Priez pour qu'ils puissent être fortifiés dans leur foi, pour qu'ils puissent grandir dans leur foi, pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Ouais. C'est quelqu'un du monde qui a dit, on trouve toujours du temps. Où est-ce qu'on aime? Toujours du temps. Alors, sans porter de jugement sur personne ce matin, j'espère que vous êtes capable de trouver beaucoup de temps pour prier. Vous faites connaître vos besoins à Dieu, aussi pour prier pour les frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que c'est avec eux que vous êtes appelés à passer l'éternité. Amen. Dieu est bon et Dieu va encore accomplir de grands miracles dans vos vies. À travers cette histoire ce matin, je pense que la leçon principale qu'il veut que nous retenions, c'est que Dieu est encore le Dieu de l'impossible. Et peu importe les épreuves que vous vivez, si vous pensez que vous en avez trop, pensez à cette tsunamite qui a perdu son enfant. Et Dieu, elle a intercédé auprès d'un prophète. Et Dieu a ramené son fils de la mort à la vie. Et ce matin, je ne sais pas quelle expérience spirituelle vous vivez. Peut-être que vous vous sentez mort spirituellement ce matin. Parce que vous avez fait des compromis dans votre vie chrétienne. Dieu est capable en vous de vous ramener de la mort à la vie ce matin. Vous avez la capacité de le faire en Jésus-Christ. Vous avez simplement confessé votre péché. Vous avez simplement vous humilier devant lui, à vous repentir. Vous dites, moi, je suis un hypocrite. Je fais semblant d'être ton enfant. Je joue un jeu devant le monde. Je joue un jeu devant mes frères et sœurs, alors que je ne vis absolument rien avec toi. Et ce matin, je vais me mettre en règle. Je profite de l'occasion de me mettre en règle avec toi ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Je sais que, selon ta promesse, Seigneur, tu ne mets pas dehors quiconque vient à toi. Et je me présente devant toi tel que je suis, Seigneur. Tu connais mon cœur, je te confesse mes péchés. Et je veux redémarrer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Vous pouvez avoir l'assurance, si vous confessez vos péchés, vous êtes fidèle et juste pour vous pardonner tous les péchés. Amen.